Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez sans trop le savoir. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Et une série de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2021 à Reims. Aujourd'hui, épisode 1. Dans ce premier numéro de la saison 2021 de votre émission « Que se passe-t-il dans mon quartier ?», nous nous rendrons au quartier Croix-Rouge afin de découvrir le projet ACT-Quartier. Nous déambulerons ensuite et nous irons à la rencontre d'Audrey et de son association Kesha Création. Mais pour débuter, chaussez vos crampons car nos aventures débutent sur un terrain de foot. En août dernier, Radio Primitive s'est rendue au Football Club Formation La Neuvillette Jamin. Et vous allez être surpris.
Bonjour, donc je m'appelle Thomas Orion, je suis directeur général du FCF La Neuvillette Jamin, football club de formation La Neuvillette Jamin. J'occupe ce poste depuis le mois d'octobre et moi je suis entraîneur et dirigeant de club dans le foot depuis plus de 12 ans. De formation, je travaille déjà j'ai toujours travaillé dans le social et dans le médico-social puisque je suis éducateur spécialisé de formation et puis depuis quelques années chef de service dans des établissements sociaux ou médico-sociaux. Le projet qu'on a mené en réponse à l'appel d'offres de la politique de la ville et qu'on a mis en place, il était de pouvoir impliquer davantage notre club dans une ouverture sur son territoire. Donc de se mettre en lien déjà avec tout un travail de mise en lien avec les autres associations et de pouvoir justement rayonner sur notre territoire et participer aussi sur un aspect éducatif politique de la ville à ce qui se passe sur notre territoire. C'est quelque chose qu'on a défendu puisque c'est on va dire assez original pour un club de football d'être dans la politique de la ville. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant. Donc on a eu des échanges avec les services de l'État, avec les services de la ville. Ça a été donc des échanges de qualité qui ont permis d'ajuster notre projet et de présenter sur l'appel à projet un projet donc, qui a été retenu en termes de financement avec vraiment des axes et des objectifs assez complets. Nous, au niveau, on est principalement, on va dire, sur le territoire nord de la ville de Reims, c'est-à-dire qu'on a un club qui fonctionne avec, qui compte à peu près 350 licenciés, qui est en expansion avec une prévision d'augmentation sur les années qui viennent, mais qui est également, on va dire, un petit peu esselé sur ce territoire nord au niveau d'autres zones de la ville de Reims où il y a plus de clubs de football. En tout cas, on a beaucoup de demandes. Donc là, aujourd'hui, le projet sur lequel on a répondu, il s'adresse à tous les Rémois. Hein. On peut avoir des enfants de tout Reims, mais aujourd'hui, on a principalement des inscriptions sur les quartiers alentours et sur les zones qui sont en QPV, qui sont en quartier prioritaire de la ville, donc notamment le secteur Orgeval, le secteur Valbaume. Donc pour pouvoir mener à bien ce projet, ça a demandé de se mettre en relation avec beaucoup d'acteurs, que ce soit déjà au niveau de l'éducation nationale, avec les principaux des collèges de secteur, avec le dispositif de réussite éducative, mais aussi d'autres acteurs institutionnels comme la prévention spécialisée ou les maisons de quartier comme la maison de quartier Orgeval ou la maison de quartier Les Sources située à Trois-Fontaines, avec lesquelles on a travaillé avec les animateurs, avec des médiateurs, avec des éducateurs, en tout cas pour vraiment essayer de pouvoir parler de ce qu'on mettait en place cet été, qu'on puisse aller chercher des publics qui sont en tout cas soit en difficulté dans leur scolarité, en risque de rupture scolaire, soit du public qui est vraiment qui se retrouve un petit peu en situation d'errance, en tout cas sans proposition de vacances sur des périodes estivales, et c'est pour ça que notamment le projet a été positionné sur le mois d'août pour répondre aussi à cette inquiétude avec la crise sanitaire, moins de départs en vacances. de pouvoir proposer un projet de qualité sur le plan éducatif à des jeunes garçons ou filles âgés de 9 à 14 ans qui se retrouvaient sur le mois d'août avec peu de propositions en termes de vacances, en termes de loisirs, en termes éducatifs là-dessus. Sachant que ça venait aussi compléter les dispositifs de la ville de Reims, qui eux sont nombreux sur le mois de juillet, mais avec la fermeture des maisons de quartier notamment, on a une offre qui est moins importante sur le mois d'août.
On est à la mi-août, le projet a débuté. Est-ce qu'il est possible de rentrer dans le détail de ce projet et d'expliquer ainsi pourquoi il y a de nombreux partenaires qui sont associés ?
Alors, la particularité vraiment de ce projet, c'est qu'il se fait, avec des partenariats, et c'est même l'essence même de ce projet. Donc on accueille les enfants du lundi au vendredi, à chaque fois sur une semaine complète, de 9h à 17h30. Avec le matin, on est dans la spécialité qui est attenante à notre club, c'est-à-dire des séances de football ludique, plutôt basées sur le jeu, sur des jeux de collaboration, où on peut travailler sur le respect des règles, le comportement dans le groupe, donc avec des séances qui ont lieu tous les matins. Le midi, on prend notre repas à la cafétéria de Cora, on coupe le groupe en deux, puisqu'il y a un groupe qui va en aide aux devoirs, soutien scolaire, où on travaille sur les bases de la scolarité avant la reprise, avant la rentrée de septembre, et un autre groupe qui mange. Et puis au bout d'une heure, on inverse les deux groupes. L'après-midi, elle est consacrée à de la découverte multisport, notamment avec des partenariats forts, qui sont un partenariat avec l'EFSRA, le club d'athlétisme sur Orgeval, qui propose du coup avec... la mise à disposition d'éducateurs sportifs, la découverte de l'athlétisme ou de la découverte sur de la boxe éducative avec le CRAM, le Centre Émois des Arts Martiaux, qui de la même façon vient proposer des séances de découverte avec le ring gonflable qui se déplace et qui vient jusqu'à nous ou jusque dans le quartier. Donc c'est vraiment un projet qui est porté justement avec plusieurs associations et c'est vraiment le but de mettre en lien les associations qui sont sur un même territoire.
Alors comment les jeunes ont pu rentrer dans ce projet ? On parlait de partenariat avec l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites en amont ou est-ce que c'est pour un tout autre volet du projet ?
Alors oui, ça s'est fait en amont. Il y a eu des discussions avec les partenaires. On a mis en place des comités de pilotage avec l'ensemble des partenaires qui souhaitaient y participer. Et du coup, aujourd'hui, les inscriptions, elles peuvent venir de différentes origines. Il y a des inscriptions qui ont été réalisées par la DRED, le dispositif de réussite éducative, sur des jeunes qui étaient en difficulté et qui bénéficiaient de ce dispositif-là. On a beaucoup travaillé avec eux et ils nous ont inscrit directement des jeunes. Il y a des inscriptions qui sont faites grâce au travail des animateurs des maisons de quartier qui ont vraiment relayé le projet. Et en plus, les inscriptions pouvaient se faire même directement à la maison de quartier. On avait les dossiers d'inscription, tout ça, on travaillait avec eux. Après, il y a également tout un travail qui a été fait avec la prévention spécialisée, d'arpentage, de présentation du projet, où j'ai pu notamment me rendre avec un éducateur de la prévention spécialisée sur les quartiers, rencontrer, présenter le dispositif. Et puis nous, donc c'est un dispositif qui a lieu sur 3 semaines au mois d'août, et nous, y compris sur la première et la deuxième semaine, on a continué sur des après-midi à détacher les animateurs pour présenter la semaine suivante et la troisième semaine, donc continuer à faire vivre l'offre pendant l'été pour des enfants qui se retrouvaient avec pas forcément beaucoup d'occupations sur les vacances, qu'ils puissent même quelques jours avant se saisir et que les familles puissent se saisir du dispositif et venir s'inscrire avec ces enfants-là. Donc vraiment avec des origines multiples.
Combien il y a d'enfants sur l'ensemble du dispositif ? Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas encore arrêté en fait.
Normalement c'est arrêté sur chaque semaine. Ce qui est positif, c'est qu'on a plus les semaines avancent, alors là c'est la troisième et dernière semaine, mais on a une augmentation du nombre d'enfants sur le dispositif, puisqu'on avait 16 enfants la première semaine, on en avait 24 la deuxième et on en a 38 cette semaine. Donc chaque semaine on a une augmentation quasiment de 50% du nombre d'inscrits. Ce qui est plutôt positif, donc les familles en parlent, on continue à parler du projet sur les territoires et on a des nouvelles inscriptions. Donc on a vraiment augmenté nos capacités d'accueil au fur et à mesure des 3 semaines.
Est-ce que la majorité des jeunes qui participent à ce projet connaissaient déjà les infrastructures qu'ils peuvent donc visiter ? Est-ce qu'ils avaient connaissance du club de foot, du club d'athlétisme ?
Non, pas forcément. Alors, il y en a quelques-uns qui sont une minorité qui ont pu être licenciés au foot ou qui sont licenciés au football chez nous. On en a quelques autres qui avaient déjà fait des initiations, tout ça, mais en tout cas, ils ne connaissaient pas les structures. Il y a des familles qui, d'ailleurs, même en habitant sur le secteur d'Orgeval ou de Valbaume, ne savaient pas où était le stade de la Neuvillette, là où ça allait se dérouler. Donc déjà, ça nous a permis, nous, de nous faire connaître, d'avoir cet objectif d'exister et d'être actif sur un territoire, et le fait de le faire en lien avec des autres associations. On vise aussi un public qui est très peu inscrit dans les clubs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner le goût et l'envie à ces enfants-là d'aller vers des clubs. Et on travaille là-dessus en partenariat. Et aujourd'hui, peu importe qu'un jeune qui ait participé à cette session et à ce dispositif, si à la fin, il s'inscrit à l'athlétisme, à la boxe ou au foot, peu importe, si on a réussi à derrière donner l'envie de rejoindre une structure et de rejoindre un club, c'est que ce sera positif. Mais là-dessus, on est vraiment. C'est pour ça qu'on travaille aussi vraiment sur la découverte multisport et qu'on n'est pas focalisé sur une seule activité ou que sur le football, qui est notre spécialité. On a vraiment voulu quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus ouvert.
Le projet s'arrête fin août ou il continue après la rentrée scolaire ?
Alors, on est parti sur le projet va être sur 4 semaines, donc sur effectivement les 3 semaines du mois d'août. Donc là, on aura fini nos 3 sessions à la fin de la semaine. Mais par contre, on a aussi une semaine sur les vacances d'octobre où on reproposera le projet sur une semaine sur ces vacances-là. Avant de pouvoir en faire le bilan, d'analyser un petit peu comment ce sera déroulé. Mais effectivement, on a encore une semaine sur le mois d'octobre qui est prévue.
Les inscriptions seront ouvertes jusque quand pour cette session du mois d'octobre ?
On va aller on va dire quasiment jusqu'à la veille des vacances, puisque dans la limite des places disponibles, bien entendu. Notre capacité maximum, elle est de 48 enfants. Peut-être même 40, parce que après en termes d'organisation, il faut aussi qu'on puisse proposer, et notamment sur le soutien scolaire, sur l'accompagnement des enfants, sur tout ce qu'on travaille sur, en termes éducatifs, sur la citoyenneté, l'environnement, parce qu'on met aussi ce type d'atelier en place en fin de journée. Il faut qu'on puisse continuer à proposer un accompagnement de qualité. Jusqu'à la. Voilà, en tout cas, tant qu'il y a de la place, on n'a pas encore lancé les inscriptions, on les lancera début septembre. Jusqu'à la veille, on peut prendre des inscriptions tant qu'on a de la place par rapport à ça.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il est un peu tôt là pour prendre le recul et réfléchir à ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on peut avoir un peu vos premières impressions sur ces semaines qui se sont déroulées et la façon dont ça s'est passé pour le club aussi, puisque ça dépasse largement les frontières du football et de l'activité principale d'un club?
Déjà, c'était quelque chose de complètement nouveau pour le club, parce qu'on s'était jamais lancé dans ce type de projet. Donc déjà, c'est une expérience qu'on a vécue. Quand on dit, moi aujourd'hui, je suis le représentant du club et je suis le directeur sur cette semaine, mais c'est bien plus large que ça, que l'engagement du club, parce que ça engage aussi beaucoup de bénévoles et beaucoup de membres du club, ce soit sur l'aspect communication, sur la responsabilité de la présidente, sur le secrétariat, avec un gros travail qui a été fait par notre secrétaire sur le plan administratif, mais aussi avec la trésorière, sur tout ce qui va découler en termes de comptabilité. Donc quand on engage le club, on engage aussi beaucoup de monde, et on l'a fait avec en tout cas beaucoup d'enthousiasme, et aujourd'hui sans aucun regret. Notre principale satisfaction, c'est de voir que sur des moments qu'on avait identifiés comme peu évidents finalement, comme les heures de soutien scolaire, pendant les vacances, tout ça, on a des enfants qui sont concentrés, qui le font sans rechigner, en tout cas voilà, qu'on prie vraiment ce rythme sur le soutien scolaire, donc c'est quelque chose qui est positif. Et puis également toute la joie et toute l'envie des enfants de revenir sur d'autres semaines, ça a vraiment été quelque chose qui est positif, et l'augmentation du nombre d'inscrits de semaine en semaine, montre que les enfants, quand ils viennent ici, ils sont satisfaits de la semaine qu'ils ont passée. Ils ont pu tisser des liens avec des enfants qu'ils connaissaient pas forcément. Ils ont pu tisser des liens avec des animateurs, découvrir des activités, avoir des journées qui sont intéressantes. On finit également les vendredis après-midi par un grand jeu Voilà, généralement avec un thème, tout ça, où on essaye qu'ils puissent profiter au maximum de leur dernier après-midi et qu'ils gardent vraiment un bon souvenir de la semaine. Et du coup, voilà, on a vraiment des enfants qui ont envie de revenir, qui sont satisfaits d'être présents. Et ça, c'est vraiment pour moi la plus grosse réussite aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose qui répond aux objectifs qu'on s'était fixés sur le plan éducatif, sur le plan de la découverte des sports, sur le plan d'avoir de nouveaux partenaires sur le secteur, sur le fait d'avoir une place qui soit plus importante sur le secteur, dans le sens où on soit reconnu, connu des acteurs institutionnels, connu des autres associations. Mais voilà, la principale satisfaction, c'est d'avoir des enfants qui veulent se réinscrire et qui sont contents de venir là le lundi matin, qui viennent ici avec le sourire, et ça, c'est vraiment important.
Yanis,
Jalil,
Ivanéo,
Isaac,
Adem.
Vous venez de faire un stage pendant une semaine. Est-ce que vous voulez, chacun votre tour, m'expliquer un peu ce que vous avez fait durant cette semaine?
Moi, je suis arrivée la semaine dernière, en même temps qu'Ivanéo. Le premier jour, c'est le matin, c'est foot, jusqu'au repas du midi. Après, tu fais, en arrivant à Koura pour la cafétéria, tu fais des devoirs. C'est les petits qui commencent à manger. Après, on inverse. Après, les lundis, c'est athlétisme, avec les mercredis. Les mardis et jeudi, c'est boxe. Il y a un groupe qui fait boxe et un groupe qui fait tech. Et les vendredis, c'est grand jeu.
Est-ce que chacun votre tour voulait bien me dire ce que vous avez préféré dans la semaine?
Bah, moi, j'ai préféré plutôt le matin parce que ça m'a un peu aidé à revenir un peu des vacances. Et du coup, bah, je me suis aussi bien amusée pendant tout le reste de l'après-midi.
Et toi, qu'est-ce qui t'a plu le plus?
Moi, c'était le grand jeu. C'est quand on a fait les glissades. Parce que ça glissait et il avait des bouées. Et aussi, c'était quand on avait le parcours du combattant, il nous lançait des bombes à eau. Donc c'était bien.
Alors, il va falloir m'expliquer le contexte du grand jeu, hein, parce que sinon, là, si tu me parles directement des bouées, alors il fallait faire quoi exactement? C'est quoi le but?
En fait, le grand jeu, c'est une après-midi, donc de à peu près 14h à 10h30. En fait, ils installent des activités un peu partout dans le club. T'avais le crossbar, le parcours du combattant. Le blind test, les ballons à eau et le jeu surprise. Pour l'occasion, là, le jeu surprise, c'était... ils avaient posé une bâche et ils avaient mis du savon et de l'eau dessus. Et avec des bouées, on glissait.
Et des fois, quand on passait, ils nous arrosaient avec un jet.
Le jet d'eau. Il y avait aussi les crossbars. Fallait essayer de faire... Plus du gros record,
ouais.
Toucher le plus de fois de la barre. Et le parcours du combattant, c'était tout simplement un parcours où, à un moment, quand on rampait, on nous balançait des bombes à eau. On devait faire ça le plus rapidement possible.
Pour les ballons d'eau, pour l'activité ballon d'eau, c'était comme si on faisait du volleyball. Ils mettaient une sorte de ruban, comme s'il y avait eu un crime. Ouais. Comme pour les travaux. Ils mettaient un ruban, après on devait se balancer l'eau. Et à un moment, ils avaient rajouté une règle. Si le ballon tombe par terre, même s'il s'éclate ou il ne s'éclate pas, l'équipe qui a fait. Si je imagine, je suis dans son équipe et je lui fais la passe et le ballon tombe par terre, c'est moi qui me prends le ballon.
Ah, nous, on n'avait pas fait ça.
Non, on l'a fait.
Momo, il avait dit que.
C'est
un animateur, justement. D'accord. Il avait dit que. Il fallait faire 10 passes avec la balle au-dessus du bandeau. Et au bout de 10 passes, tu choisissais qui t'allais arroser, justement. Et du coup, c'était pas un saut entier, mais c'était quand même la moitié d'un saut. Et on pouvait choisir sur qui on les versait. Mais il fallait faire 10 passes.
Mais c'était trop bien parce que il faisait chaud et ça faisait du bien.
Ce que j'ai préféré dans la semaine, c'est où il y avait le grand jeu et les activités de l'après-midi qu'on avait fait, le boxe et l'athlétisme. On avait fait ça et après c'était bien quand on faisait de la boxe, on avait fait des matchs par deux. Et plus on avançait dans la semaine, bah, plus il y avait plus de règles dans la boxe. Par exemple, il y avait des coachs et il y avait des arbitres et des... comment ça s'appelle ?
Juges.
Ouais, voilà, des juges.
Est-ce que...
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire le prénom des animateurs ?
Momo, Mohamed.
Sam, Coco alias Corentin.
Taf, Ziad.
Il y en a d'autres ?
Oui. Il y a Naïm.
Et c'est tout, je crois.
Non, il y a Samantha.
Si, je l'ai dit. Mmh. Il a dit. Ah non, il y a Sam.
Il y a Sam.
Il y a Thomas.
Ah oui, c'est vrai. Et il y a Mathieu.
Ah oui, Mehdi.
Ah.
Et toi, je t'ai pas demandé ce que tu avais préféré cette semaine.
J'avais préféré le matin, pendant les séances de foot, parce que ça m'a permis de m'améliorer, parce que j'avais l'impression surtout de rester sur place niveau foot, mais là j'ai l'impression de progresser et juste pour ça ça a fait que j'ai préféré ce moment. Mais sinon l'après-midi c'était assez bien parce qu'on se dépensait et on rigolait tous ensemble.
Je vois que tu as un t-shirt du club. Tu fais déjà partie du club ?
Oui, je fais déjà partie du club. Il y a aussi quelques autres enfants qui font partie du club là, étant donné à Nice. Et là justement ce soir on a entraînement. À reprendre l'entraînement pour faire des matchs, etc.
C'est-à-dire que là, tu cours depuis 9h ce matin et... Là, il est 17h, à peu près 17h, et tu repars à l'entraînement ce soir.
Ça gêne pas en soi, parce que j'aurais pas préféré qu'on s'arrête à un moment de la journée et qu'on reparte pour aller refaire, parce que vaut mieux en profiter quand le muscle est toujours chaud.
Ok.
Moi, c'est pareil que lui. Pour le foot, ça nous permet de nous entraîner. Pour si on n'est pas trop bon, on apprend de nouveaux dribbles, on apprend comment bien baser ses tirs, on apprend à bien maîtriser ses passes, plusieurs trucs, etc.
Et la partie devoir du midi, comment ça s'est passé ?
Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu apprendre des trucs et j'ai aussi pu régler mes lacunes avec les animateurs qui étaient là pour m'aider. Et en soi, c'était pas une heure ennuyante. Comme les animateurs l'ont dit, c'est plutôt un moment calme qui permet de se reposer. Et moi, je vais pas dire que j'ai bien aimé, mais je vais dire que ça passe.
Moi, j'ai bien aimé, comme ça me permet d'avancer, de bien plus apprendre comme lui. Et j'ai bien avancé sur le travail qu'on m'avait donné avant.
Moi, j'ai bien aimé parce que comme je suis en classe Ulysse, j'ai des problèmes, donc du coup les animateurs ils m'aident à faire des mathématiques, du français un peu, et je crois que c'est tout.
Moi j'aime bien parce que ça me permet, parce que à la maison c'est plutôt dur à refaire les devoirs, et du coup tu te remets avant 2 semaines de la rentrée, donc c'est plutôt bien, et aussi pour les gens genre qui n'aiment pas trop les devoirs, qu'on les pousse à un peu travailler pour les aider à mieux se concentrer à l'école.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Venez tous vous inscrire à la Neuvillette.
C'est vrai. Et venez au stage.
Oui, c'est très bien. Les animateurs sont très cool.
Ouais, très gentils. Bon.
Écoutez Radio Primitive et l'émission Que se passe-t-il dans mon quartier, épisode 1. Quel est notre deuxième rendez-vous du jour ? Si l'on tend l'oreille, on peut entendre le ronronnement d'une machine à coudre, le crissement des tissus. Car à Croix-Rouge, dans son atelier de couture, Audrey Houdet imagine, certes des vêtements, mais aussi des projets. Chut, c'est le début du défilé.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Audrey Houdet, je suis bénévole et coordinatrice dans l'association Atelier Kécha Création qui est basée sur le quartier Croix-Rouge. Plus exactement, le centre d'affaires Innovact qui est au 58 avenue Général Eisenhower.
Je suis venue ici pour parler de différents projets qui sont en cours actuellement en 2021. L'interview s'est réalisée au mois de juin. Déjà, avant de partir sur ces projets, est-ce qu'il est possible de nous faire un petit historique de cette association, de ses buts, de pourquoi, avec qui, comment ?
L'association a été créée en 2013. Elle n'a pas été mise en fonction tout de suite. Quelques années sont passées et elle a pris vraiment tout son sens en 2016. J'ai commencé donc avec les maisons de quartier Saint-Rémy et Verrerie. Ça a duré quelques mois, mais ça n'avait pas été vraiment positif, je dirais, par rapport à eux. Mais j'ai quand même continué chez moi avec les groupes que j'avais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai sollicité Reims Habitat qui a accepté de nous installer au sein du quartier Croix-Rouge, Esplanade Eisenhower.
On a dit de fil en aiguille, mais on n'a pas précisé quel était le domaine de création.
Tout à fait. Donc, initialement, l'association est là pour initier justement à la couture ou pour les personnes qui souhaitent se perfectionner. Et au-delà, évidemment, de la couture, dont on se sert comme outil, en fait, finalement, de travail et d'apprentissage, on construit des projets sur l'estime de soi. On sensibilise également sur la confection, comment on fait un vêtement, prendre soin du vêtement, recycler son vêtement et les matières également pour celles qui, on peut récupérer des coupons de tissu avec lesquels on refait également des vêtements ou des accessoires. Donc vraiment, ça c'est notre vision, c'est nos valeurs qui sont vraiment déjà le partage des connaissances, le partage entre les personnes, le lien social que ça crée, l'engouement qu'on a déjà tous pour le vêtement d'une manière générale, puisqu'on est tous concernés, on s'habille tous, que je sache. Donc c'est ça vraiment qu'on porte comme valeur et encore plus si on peut aider, on a tout gagné quand c'est comme ça.
Alors il y a des projets ponctuels, mais est-ce qu'il y a au cours de l'année des moments qui reviennent chaque semaine, chaque jour? Quel est le fonctionnement habituel de l'association?
Alors son fonctionnement, c'est donc des ateliers qui ont lieu tout au long de la semaine. Les personnes viennent, s'inscrivent comme dans n'importe quelle association. C'est donc des ateliers de couture, soit pour débutants, soit pour perfectionner. Ça après, on voit ensemble le niveau. Donc c'est tout au long de l'année, c'est tout le temps, sur rendez-vous. Ça c'est le fonctionnement habituel. Après, on a donc des projets qui sont écrits en relation donc sur les appels à projets en fait que la ville de Reims propose, et on essaye de leur proposer également des projets en ayant donc la couture comme support de travail.
En 2021, il y a combien de personnes dans l'association et les ateliers qui sont proposés chaque semaine ici dans les locaux, par exemple, ça représente environ combien de personnes ?
Alors c'est très variable, en effet, ça peut aller du simple au double, donc j'ai des périodes où il n'y a pas trop d'activité, et sinon là on est en juin, on est à peu près une cinquantaine de personnes, mais ça se renouvelle en fait, c'est pas des personnes qui restent toute l'année. Moi mon intérêt c'est que les personnes deviennent très rapidement autonomes et qu'elles apportent cette activité à la maison en fait. Après quoi, voilà, si elles ont vraiment besoin de conseils, etc., je reste disponible, mais mon but vraiment c'est de démocratiser la couture, de faire en sorte qu'on s'y remette tous en fait, qu'on ait tous la machine à la maison et qu'on partage ce moment-là avec la famille. Et donc, en plus, c'est utile parce que qui n'a pas besoin d'un ourlet, qui n'a pas besoin d'une retouche, voilà. Donc c'est des choses simples qu'on apprend assez facilement et qu'on peut faire à la maison. Par exemple, en temps de Covid, ça a été très utile pour beaucoup. D'ailleurs, certaines se sont découvertes des aptitudes à la couture. Et c'est tant mieux parce que ça fait partie des activités qu'on peut réaliser à la maison pour pas grand-chose en termes d'argent. Juste l'investissement d'une machine et de bons ciseaux. Donc on est là pour ça, pour faire en sorte que vraiment la couture se répande davantage et qu'elle devienne plus accessible et plus facile à réaliser.
Et en parlant de machines ou de matériel, justement, les personnes qui viennent à l'atelier au cours de l'année n'ont pas besoin de venir avec leur propre machine au départ?
En effet, nous, on fournit tout le matériel, la mercerie, les fils, exactement, tout. La seule chose que les adhérents doivent apporter, c'est leur tissu au moment où elles choisissent en fait leur projet. On met même aussi, on donne les patrons, on fait des patrons sur mesure. Voilà, on fournit tout. Donc, en effet, dans le package ou dans le tarif, tout est compris. Hein, voilà.
Alors, pour les projets spécifiques 2021, qui ont peut-être été un peu bousculés par la Covid, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui a été prévu? Et justement, il y a l'un des projets qui bénéficie de l'aide de politique de la ville. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces projets et plus spécifiquement de celui politique de la ville?
Alors, donc, en effet, on a un premier projet qui a vu le jour fin avril après je sais même plus le numéro combien de déconfinement, mais voilà, après le dernier déconfinement, qui s'appelle donc La féminité, la mode, les quartiers, où est ma place? Donc, c'est un projet qui est 100% féminin, sur lequel on a voulu vraiment porter l'attention, parce que dans les zones qu'on appelle quartier, parce que bien qu'un quartier peut être un quartier résidentiel, un quartier de maison, etc., pavillonnaire, mais on se fait tous une idée du mot quartier, un ensemble d'immeubles où de nombreuses personnes vivent, et bien souvent des personnes classe populaire, etc. Donc voilà, moi c'était un peu aussi pour rappeler qu'un quartier, c'est pas forcément que une zone avec des immeubles ou des personnes d'origine étrangère ou de toutes, voilà, ça s'étend au-delà de ça. Et puis ensuite, c'était aussi pour amener ces jeunes filles et ces jeunes femmes à s'exprimer sur leur lieu de vie, comment elles le vivent, comment elles le ressentent, et donc déjà avoir un échange verbal avec ces jeunes filles qui sortent pas beaucoup de chez elles, faut le dire. Donc c'est vrai que là-dessus, pour le coup, la couture a bien joué son rôle, parce que elles sont toutes, pour la plupart aussi, dans une dynamique, elles aiment la mode, elles aiment faire elles-mêmes, Ben voilà, elles aiment faire les choses par elles-mêmes, et en plus ça reste une activité utile pour la famille, au sein de la famille, qu'elles peuvent réaliser ensuite chez elles assez facilement. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'était surtout de valoriser la femme, les jeunes filles, comme en plus en pleine adolescence, on a tous un peu, enfin voilà, on est toutes passées par là, c'est un peu compliqué, de les amener à trouver leur propre identité, ou en tout cas à grandir. On est une étape dans la vie de ces jeunes femmes, pour les aider à devenir les femmes de demain. Et puis justement, à se montrer, à dire que oui, on est là. Il y a un message fort quand même derrière ça, malgré une timidité quand même, et elles sont assez réservées. On essaye en tout cas de faire en sorte que tout ce monde-là arrive à s'exprimer au travers du vêtement, au travers du vêtement qu'elles ont envie de réaliser. Quand bien même elles habitent dans un quartier XY, elles vont réaliser, en fait, elles ont réalisé un vêtement tel qu'elles se l'imaginent, telles qu'elles imaginent dans le monde dans lequel elles voudraient vivre, ou dans l'environnement dans lequel elles aimeraient vivre, ou dans leurs rêves, etc., etc. En fait, voilà, c'est très varié. Il y en a où c'est très protocolaire, on sent que voilà, il y a une certaine rigidité. D'autres, c'est beaucoup plus excentrique, etc. Donc, on voit en fait, on arrive à faire ressortir finalement leurs propres pensées à travers le vêtement.
Alors, d'où viennent ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui ont participé à l'atelier? Elles sont arrivées là comment?
Par la magie, non?
En plus, c'est souvent l'étape la plus compliquée. Donc,
oui. La captation du public, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai un bon réseau et c'est tant mieux. Après, dans le quartier, on connaît déjà. Donc, du coup, ça facilite. Hein. Quelques-unes avaient déjà fait une expérience couture avec moi, une initiation où elles étaient venues s'inscrire aussi pour des ateliers. Et puis, du coup, elles m'ont ramené des amis, la famille, les sœurs, etc. Donc, c'est un peu comme ça que s'est constitué ce groupe. D'autres ont vu l'émission sur d'autres chaînes télévision qui parlaient justement, où je parlais de l'atelier, etc. Donc du coup, les personnes ont pris contact et ça s'est fait comme ça.
Donc ça a constitué un groupe de combien de jeunes filles et jeunes femmes ?
Donc là, on est entre 15 et 20, mais oui, j'en ai quelques-unes qui m'ont un peu laissé...
Un gros groupe, déjà.
Oui, c'est un petit groupe, ça encore, ça va, mais voilà, elles seront une bonne quinzaine pour le défilé et qu'on va donc réaliser, parce que la finalité de ce projet est donc de présenter ce qu'elles ont réalisé au travers d'un défilé spécialement réalisé pour elles.
Donc c'est un défilé où c'est elles qui portent les vêtements qu'elles ont conçus ?
Oui, alors ça, c'est aussi tout le travail sur l'image de soi, l'estime de... Alors, on travaille l'estime de soi, justement, au travers du vêtement qu'elle réalise. Et puis, la confiance en soi, c'est quelque chose. Hein. Je pense que de passer devant un public d'une centaine de personnes, ça fait un peu réfléchir. Donc, c'est un exercice, c'est un très bon exercice pour ces jeunes femmes en devenir. Et oui, c'est le challenge. Ça, c'est le challenge du projet.
Donc, à l'heure où les auditeurs et auditrices écoutent cette émission, le défilé est passé. Mais nous, là où on est aujourd'hui, ça se profile bientôt. Alors, c'est quoi les derniers préparatifs et ça va se dérouler où ?
Donc le défilé va se réaliser sur le parvis de la faculté droit et lettres à Croix-Rouge.
La dernière ligne droite, qu'est-ce qu'il y a à faire une semaine avant la fin ? Est-ce que toutes les créations sont terminées ? Est-ce qu'au contraire, ça va être ambiance pré-défilé haute couture ?
Les tenues sont finies déjà depuis une semaine. Et donc là, sur la dernière semaine, en général, c'est la communication, beaucoup. Rassembler les partenaires, checker tout le monde. On fait une répétition générale aussi avec les filles, plus d'autres modèles que je vais ajouter, parce que c'est bien de mélanger, je pense, un peu le pro et celles qui ont plus l'habitude de défiler, avec qui je fonctionne en général, et donc les jeunes filles qui, elles, c'est la première fois. Je pense qu'il y a un bon échange aussi à ce niveau-là, et du coup, ça les motive encore plus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? C'est toute la logistique, hein, vous savez. Et là, pour le coup, c'est moi qui gère tout ça. Donc, il faut organiser tout le monde, s'assurer des bénévoles, des personnes qui vont pouvoir aider, la technique. Là, je n'ai pas encore fait ma bande-son, par exemple. Il faut que je la fasse. Voilà, hein, la routine, j'ai envie de dire.
On a parlé de répétition, le groupe des participantes a eu un cours, alors le terme est peut-être pas juste pour défiler, parce que c'est pas du tout quelque chose de naturel de défiler, donc...
Oui, c'est vrai, c'est pas tellement naturel, on va pendant cette répétition en fait voir un peu la chorégraphie, entre guillemets, hein, parce qu'on va essayer de faire très simple, et là oui, on va accentuer sur comment marcher sur des talons, donc là ça va être très drôle, et en rythme, parce que ça paraît pas évident comme ça, mais quand on met une musique qui est lente, avec un rythme assez lent, la personne va marcher lentement, mais dès que la musique s'accélère, elles ont tendance à marcher au rythme de la musique. Et ça, en fait, je vais leur apprendre à ne pas faire attention à la musique et à avancer à un certain rythme, parce que c'est nécessaire dans le scénario en fait, du défilé. Il y a un temps à défiler et il faut le respecter pour laisser le temps à l'autre derrière peut-être de se changer et de bien garder le rythme du roulement. Bon, ça, c'est assez technique, mais on va travailler là-dessus, sur la posture, sur les temps d'arrêt, comment se retourner quand on a une robe, par exemple, avec une traîne, comment réussir à tourner sans s'accrocher les pieds. Bon, moi, je rigole parce que je ne vais pas défiler, mais... Je connais bien ça et donc ça promet à mon avis une partie de rigolade sympa avant. Et puis c'est très important de faire ça parce que ça crée aussi une cohésion au niveau du groupe. Déjà moi je les ai eus en petit groupe du fait du Covid et puis l'espace quand même reste restreint dans l'atelier quand même. Elles se connaissent toutes mais... elles n'ont pas forcément partagé les temps d'atelier entre elles. Donc les petits groupes se connaissent entre eux, mais tous les groupes ensemble, pas tout à fait. Donc c'est aussi un moment qui va permettre aussi de briser la glace entre les unes et les autres, parce qu'au moment du défilé, déjà les changements se font en commun, c'est pas individuel dans une pièce, voilà. Donc là, il faut pas qu'il y ait de personnes trop réservées, hein, clairement. Elles restent entre femmes, il n'y a pas de souci, mais... Ça fait partie en fait de ça et de briser la glace pour pas que le jour J l'une soit gênée, timide, etc. Ou elle essaye de se comparer à l'autre. Enfin bon, voilà, on essaye. Bon, à ce moment-là, en fait, je mets tout bien carré.
Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours ou qui vont arriver d'ici la fin de l'année 2021?
Donc oui, j'ai un deuxième projet qui démarre sur l'été, qui s'appelle Mon patrimoine au travers de la mode. Et donc c'est un appel à projet des monuments patrimoniaux. Et donc on a un partenariat avec le Palais du Thau, avec qui on va faire le projet. Et il est question d'une exposition sur la semaine du patrimoine, qui a une fois par an, donc à la rentrée de septembre, à partir du 16 septembre exactement. Alors sur ce projet, c'est un peu la même chose, on touche la jeunesse entre 10 et 20, alors plus s'il faut, hein, mais, et là ce sera mixte, contrairement au premier projet où c'était 100% féminin. Là ça s'ouvre à tout le monde et le but c'est de créer des œuvres d'art sur une base évidemment mode, de vêtements, et un peu futuriste, on n'est pas là pour faire de la costumerie, et c'est vraiment de mettre en avant le talent de chaque jeune. Donc là j'ai déjà un groupe qui est constitué d'une petite quinzaine de jeunes, et on part sur ce projet ensemble. Ils vont travailler ensemble sur une œuvre qu'ils vont ensuite devoir présenter, expliquer oralement lors du vernissage devant le public justement. Et là, c'est intéressant parce que non seulement c'est un projet qui est éducatif, culturel, qui parle de l'histoire quand même de France, et pas des moindres hein, quand même, puisque le Palais du Thau est quand même le lieu où en tout cas étaient accueillis les rois avant d'être sacrés, donc c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Et ça leur permet aussi, eux, de découvrir l'histoire ou de la redécouvrir sous un angle un peu différent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, se s'approprier le patrimoine, en faire la rencontre et après partager cette activité, en tout cas ce qu'on va réaliser avec leur entourage.
Si on désire vous contacter, si on a envie de se mettre à la couture, si on a envie de s'y remettre,
alors il suffit de taper l'atelier Kesha Création sur les réseaux, ou même j'ai un site internet. Mon numéro est absolument partout, donc c'est pas un secret, il suffit de m'appeler. En tout cas, je reste disponible et je réponds à toutes les demandes sans problème.
Que se passe-t-il dans mon quartier est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de politique de la ville. Le dernier invité du jour est Younes Belkara de Saint-Plon. Il va nous présenter le projet Ac-Quartier. Ac-Quartier, Saint-Plon, mais de quoi s'agit-il ? Préparez-vous à un petit voyage dans l'univers numérique.
Je m'appelle Younes Belkaraf, je suis chargé de projet formation à l'école Saint-Plon-Reims et je coordonne le projet Ac-Quartier.
Alors bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui dans les studios de Radio Primitive. Donc Saint-Plon propose ce projet, cette action Ac-Quartier pour l'été 2021. Mais avant de nous parler de Ac-Quartier, de ce que c'est exactement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Saint-Plon ? Qu'est-ce que c'est ?
Bien sûr, Saint-Plon, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui a un objectif, c'est de former des demandeurs, demandeuses d'emploi sans prérequis de diplôme et gratuitement sur les métiers du numérique. On existe depuis 2013 et aujourd'hui, Saint-Plon, c'est plus de 111 fabriques dans le monde et plus de 11 000 apprenants qui y sont formés ou en cours de formation.
Du coup, il y a une base à Reims. Comment ça se passe ? Pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui ?
Eh bien, on a ouvert une école en novembre 2020 à Reims, qui dépend donc d'une équipe Grand Est qui est située à Reims, Nancy et Strasbourg. Et donc l'idée, c'est de pouvoir développer des actions numériques, puisqu'on constate effectivement qu'il y a encore une fracture présente sur le territoire français. Et on s'est dit, bah, plutôt que d'attendre que les gens fassent un cursus, on va dire universitaire classique, 5 ans d'études pour connaître ou avoir des bases en programmation, on s'est dit qu'on va proposer une formation intensive, donc des formats moins d'un an ou moins de 2 ans grand maximum, diplômant, donc avec un titre reconnu par l'État. Et avant ça, bah, on mène des actions aussi pour sensibiliser les gens à l'impact numérique et surtout le besoin en main d'œuvre qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, parce qu'on peine encore à recruter des talents.
Alors bien sûr, on va bientôt parler de Hack Quartier, mais vous êtes installé sur Reims en novembre 2020, ce qui n'est pas, ce qui est un peu difficile hein, comme date. Tout le monde a subi la crise sanitaire. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire déjà un premier petit bilan, malgré des mois sans doute tourmentés ?
Eh bien, malgré la crise sanitaire, on est très satisfait aujourd'hui de notre installation sur Reims, puisque simplement dès son installation, c'est 24 apprenants dans le cadre d'une promotion à l'intelligence artificielle, avec à ce jour environ plus d'une quinzaine placées en entreprise, et on fait encore le travail avec les 9 personnes restantes pour justement faire un placement. Hein. Et plusieurs actions qui vont être en cours de développement, notamment le quartier. Et je dirais que cette crise sanitaire ne nous a pas empêché de développer nos actions, bien au contraire. Cette crise sanitaire a accéléré le besoin en digitalisation dans les entreprises et les collectivités. Et je pense qu'on a bien fait de venir sur Reims justement pour ça.
Alors, Hack Quartier, qu'est-ce ? Et quel est le lien justement avec l'école que vous proposez ?
Eh bien, comme je vous l'expliquais, notre objectif, c'est de pouvoir former des gens sans prérequis de diplôme. Donc, il faut d'abord les sensibiliser. Et avec la ville et le contrat de ville, dans le cadre du contrat de ville, pardon, de Reims et du Grand Reims, on a mis en place une action, un challenge collaboratif à destination des quartiers prioritaires de la ville. L'objectif, c'est de les faire participer à un projet, donc où ils vont vraiment découvrir ce que c'est que le codage et la programmation, et de surcroît découvrir les métiers du numérique qui existent. Rencontrer aussi des entreprises, et à l'issue de cette semaine intense hein, où ils vont vraiment toucher à tout, échanger avec des gens, on va ensuite dessiner pourquoi pas un projet professionnel, donc au travers d'une formation diplômante, pourquoi pas. Et donc si je reprends cette semaine, je découvre, je teste et ensuite je peux dessiner un projet professionnel et pourquoi pas me former à la suite de cette semaine-là, soit au travers d'un organisme de formation Simplon ou autre organisme partenaire inscrit sur Reims ou dans la région Grand Est. Donc vraiment, cette semaine, elle est super intéressante parce qu'on permet aux gens d'échanger avec des vrais acteurs du secteur et de se faire sa propre représentation et d'essayer aussi avant de plonger tout de suite dans le monde du numérique.
Alors quand vous dites pas de prérequis, c'est pas de prérequis du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait avoir les bases de la programmation, ni ce genre de choses.
Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le numérique, c'est quelque chose qui est quand même accessible sur Internet. On peut s'auto-former. Quand je dis pas de prérequis, c'est pas besoin d'avoir un diplôme particulier, pas besoin d'avoir une expérience particulière. Je dirais la seule condition pour pouvoir intégrer aussi bien cet atelier ou une formation chez nous, c'est la motivation. La motivation et la volonté de vouloir apprendre et de vouloir échanger avec nous, de vouloir participer à nos actions. C'est vraiment ce critère-là qui est le plus important chez nous. On travaille essentiellement sur le savoir-être et puis le savoir-faire, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. Donc on peut mettre ça de côté pour le moment.
Alors on sait que sur ce type d'action, le plus difficile parfois, enfin non, le plus difficile très souvent, c'est déjà de capter le public.
Exactement.
Est-ce que vous avez des partenaires pour, parce que je me doute que vous ne faites pas du porte-à-porte?
Bien sûr. Alors on a les prescripteurs, les organismes publics pour l'emploi, mission locale qui nous accompagnent dans le sourcing effectivement des participants. On est actuellement dans le cadre du festival L'été s'affiche à Croix-Rouge, donc un partenariat avec les maisons de quartier, différentes associations comme le Crépi ou encore le SIAM, je pourrais vous en citer plein d'autres, mais environ 90 prescripteurs nous suivent aujourd'hui dans nos actions de sourcing. Je ne vais pas vous dire que c'est suffisant, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires et on mène aussi des actions sur le terrain, donc là actuellement c'est ce qu'on fait à Croix-Rouge, on a un stand où on fait découvrir aux habitants du quartier la programmation.
Est-ce qu'il y a une défiance par rapport à ce que vous pouvez proposer ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les jeunes qui n'ont pas de prérequis, ben, ils ne viennent pas vous voir parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à casser de ce côté-là?
Bien sûr, il y a une mauvaise représentation aujourd'hui des métiers du numérique. On pense bien souvent qu'il faut être déjà diplômé ou qu'il faut d'abord avoir une première maîtrise de la programmation. Alors c'est faux et c'est le travail qu'on mène sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui parfois nous empêche à sourcer directement le public. Donc on a mis en place des ateliers justement, où on va, des ateliers d'acculturation, où on va en fait leur permettre, au travers de logiciels qui sont très faciles d'accès, à comprendre la logique de la programmation et à tout simplement prendre conscience que, avec un peu de logique, avec un peu de réflexion et un peu de recherche, on peut obtenir déjà des solutions très intéressantes et très demandées aujourd'hui dans le secteur d'activité.
Alors là, on est en juillet 2021, donc les ateliers n'ont pas encore à proprement parler débuté. On a dit qu'il n'y avait pas de prérequis, mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est recherchée ou finalement c'est ouvert à tous?
Il faut avoir 16 ans minimum et après on peut accueillir n'importe quel participant, participante à venir s'inscrire chez nous pour profiter de cette semaine à quartier. Donc c'est très très simple, il suffit juste de nous envoyer un mail ou par téléphone. Donc le mail c'est reims@simplon.co et le numéro de téléphone est sur notre site grandest.simplon.co où les gens pourront demander tous les renseignements et s'inscrire.
Où vont se dérouler ces ateliers, cette semaine que vous proposez aux participants?
Notre objectif, c'est de mettre en place cette semaine au sein même d'un quartier. Donc pour cette première expérimentation, on a décidé de s'installer sur le campus Croix-Rouge. Donc on va sûrement être à l'étoile Croix-du-Sud, au sein du quartier Croix-du-Sud. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer cette semaine directement au quartier et puis derrière, après, de faire des placés de public dans différents endroits, notamment le campus Simplon qui est situé, lui, rue de Courlancy. Et pourquoi pas dans des entreprises partenaires qui sont situées aussi sur Reims et qui travaillent dans le milieu.
Donc vous allez aussi devoir effectuer un travail sur la mobilité des participants.
Oui, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont implantées dans différents secteurs sur Reims et même dans le Grand Est. Et il est clair que pour pouvoir s'insérer professionnellement dans ce métier-là, il faut savoir être mobile. Aujourd'hui, on peut se déplacer très facilement sur Reims et on ne pense pas aller à Besançon, par exemple, ou aller à la Croix-Blandin ou encore à Cormontreuil. Donc, il est important qu'on leur fasse découvrir les entreprises qui existent dans les différents secteurs de la ville de Reims et de l'agglomération rémoise. Donc c'est pour ça qu'on veut les faire bouger au sein de ce territoire-là pendant le programme. Quoi.
Vous avez dit en début d'interview que Simplon était implanté dans différentes villes françaises. Est-ce qu'il y a déjà des projets similaires à Cartier qui ont été menés dans d'autres villes et est-ce que vous avez idée ou est-ce que vous pouvez nous parler un peu des retombées que ça a eu?
Bien sûr. Il faut savoir que chaque formation diplômante que Simplon développe sur son territoire, c'est une continuité d'un atelier d'acculturation comme le quartier. Aujourd'hui, plus de 11 fabriques dans le monde. Je vais vous donner le cas, par exemple, des Hauts-de-France, qui eux, depuis beaucoup plus d'années que Reims développe ce genre d'action d'acculturation. Ça leur a permis de former beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, on parle de plus de 5000 jeunes sensibilisés au numérique dans tout le réseau national de Simplon. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et on a cet objectif de nous aussi d'avoir un résultat, je ne vais pas dire pareil parce que ça serait un petit peu trop prétentieux de ma part, mais notre objectif, c'est quand même d'accueillir au moins une cinquantaine de participants. Mais au niveau des ateliers sur les autres territoires, c'est similaire et ça a donné pas mal de résultats, dont des personnes qui sont inscrites dans des formations, d'autres qui sont insérées professionnellement. On parle de 76% de taux de placement aujourd'hui en formation à l'issue de ces ateliers. Donc c'est plutôt satisfaisant.
Parce que Simplon suit toujours les participants jusqu'à ce qu'ils trouvent une entreprise, une association, enfin une structure dans laquelle s'insérer.
Oui, ça fait partie déjà du cahier des charges de tous les ateliers et toutes les formations qu'on dispose. Et nous aussi, d'un point de vue humain, il est important qu'on suive les personnes conformes avec qui on échange. Donc on a un suivi post-formation, et puis on a suivi à 3 mois et à 6 mois. Notre objectif, c'est de partager notre réseau, puisque 111 écoles dans le monde, ça nous permet aussi d'avoir un portefeuille d'entreprise qui n'est pas négligeable, avec des grands groupes comme Microsoft, Apple ou encore Ubisoft, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Et nous, l'idée, justement, c'est au travers de nos parcours de les mettre en relation avec ces employeurs-là pour décrocher, pourquoi pas, des contrats d'alternance ou encore même du CDD et du CDI.
Alors, puisqu'on parle métier et formation, on a dit donc les métiers du numérique. Si on est dans le concret, est-ce qu'on peut donner des exemples de métiers en fait?
Le métier le plus connu aujourd'hui sur le marché de la formation et de l'emploi, c'est le métier de développeur web. Mais autour de ce métier-là, il y a énormément de métiers qui commencent à exploser. Je prends l'exemple du métier de développeur en intelligence artificielle. Donc, alors, c'est la formation qu'on propose aussi, mais c'est aussi un métier qui tend à se développer, et d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité, donc en dehors même du numérique, parce qu'on touche de la donnée, on touche de la data. Il y a ce métier-là, il y a tout le secteur aussi de la cybersécurité, donc des administrateurs infrastructures sécurisées. Donc là, on touche plus à la protection des données. Donc si vous voulez, quand on regarde un site internet, on a la belle vitrine, on a toutes les informations aussi, toutes les données qui sont... ce qu'on va dire derrière la vitrine, et puis on a toute la sécurité qui tourne autour du site internet. Donc quand vous voyez ces trois sphères là, dites-vous qu'à chaque fois il y a au moins 3 ou 4 métiers qui traînent dans ces sphères là, et nous on essaie justement de former des gens à intégrer ces sphères professionnelles.
Alors il est un peu tôt hein, pour vous poser cette question, puisque là vous n'avez pas encore terminé l'action rémoise de 2021, mais est-ce que vous avez déjà des envies pour 2022, peut-être changer de quartier rémois ou...
La perspective qu'on a pour 2022, c'est de pouvoir déployer la même action mais sur différents quartiers, et puis derrière rassembler ces quartiers autour d'une grande action commune. C'est important pour moi puisque je suis de Reims, donc j'ai fait toute ma vie à Reims, et je connais très bien les quartiers rémois, et je pense qu'on a besoin aussi, surtout en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre, on a besoin, je pense, de se rassembler autour d'un projet. Et ce qui est bien dans le numérique, c'est qu'on peut se rassembler sans forcément être présent physiquement, puisque on connaît un peu les contraintes sanitaires, et c'est le challenge qu'on va se fixer pour 2022, je pense.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
Ce premier épisode de Que se passe-t-il dans mon quartier s'achève. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2, toujours sur Radio Primitive. Cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du contrat de ville de la communauté urbaine du Grand Reims.